9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Salut Charles. Bah Alex, ouais. Qu'est-ce que tu fais là?
Bah Charline m'a envoyé un message pour dire que je la remplace aujourd'hui.
Ah d'accord, et Juliette elle est où?
Elle a fait un autotest positif, pas de peau.
Oh là, ça veut dire qu'on fait l'émission juste tous les deux?
Yes mon pote, on est au bureau toute la journée, complètement bloqué.
Et c'est qui l'invité en fait?
Gringe.
Tu crois que ses parents ils l'ont appelé Gringe parce qu'il ressemblait au Grinch quand il était petit?
Ou parce qu'il était gringeux?
Il vient pourquoi en fait, Grinch?
Pour son livre.
Si les rappeurs ils se mettent à écrire des livres, tu crois que les écrivains ils vont se mettre à rapper?
Bah ouais, Michel Houellebecq il l'a fait.
Ah ouais?
Il rappait tellement lentement que la première chanson elle tenait pas sur le disque.
T'as lu le livre de l'invité?
Bah non.
Moi pour pas lire les bouquins quand j'étais petit, je regardais les films des livres. Tu crois qu'ils ont fait un film du livre de Grinch?
Ouais, ça doit être Vincent Cassel qui joue son rôle.
Pourquoi?
Toujours Vincent Cassel qui joue les rôles dans les biopics français.
Ah ouais.
Salut les amis.
Juliette, qu'est-ce que tu fais là? Mais t'étais pas positive au Covid?
Non, finalement j'ai fait un test PCR et c'est négatif. C'est l'autotest qui était un faux positif.
Un faux positif? Mais
et ouais.
Ça veut dire que tu peux faire l'émission avec nous?
Voilà, hein. Alors, on en est où? Est-ce que vous avez trouvé les sujets d'actualité? L'interview, elle est prête? Guillaume, ta chronique, elle est écrite?
En réalité, on n'a pas encore ouvert les journaux, là, voilà. Juliette.
Mais il est 11h30! Mais les messieurs sont pas bons 5 minutes! Oh. Ça va pas ou quoi?
Ouais, non, mais nous on laisse mûrir les idées,
ouais, on laisse plus infuser les idées, quoi.
Juliette! Vous seriez pas un peu en train d'essayer de me prendre pour une flûte?
Un peu, mais.
Non, mais.
Allez! Au boulot!
Guillaume?
Ouais.
Il nous reste des autotests.
Tu te sens pas bien?
Je me ferais bien un faux positif, moi, aujourd'hui.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans l'émission qui est en Casual Monday et plus que probablement en Casual Week. Et voici la devise du jour, un proverbe ouzbek très utilisé là-bas. Quand Charline n'est pas là, on a une belle carte à jouer, Juliette. Eh oui, eh ben figurez-vous, c'est ouzbek, je ne savais pas d'où ça venait. Mais... Oh, à mes côtés, Juliette Armand.
Ah mais oui, c'est...
Mais bonjour.
Et bonjour Alex.
Mais alors vous êtes occupé des thématiques. Quel est le sommaire de cette émission que je découvre moi-même, hein.
D'après une étude de l'IFOP datant de janvier 2022, un Français sur cinq déclare souffrir de solitude. Et c'est une conséquence directe de la crise sanitaire, mais pas seulement. À chacun, chacune, ses stratégies pour ne pas vivre tout à fait seul.
Quand je rentre chez moi, je ne retrouve que trois chats affamés et Bob.
Qui est Bob?
Ma pomme de douche.
La grande distribution a du souci à se faire. À terme, les enseignes de livraison de courses à domicile envisagent de capter 30% du marché. Alors nous, les consommateurs, on va donc passer plus de temps sur notre canapé. On pourra moins répondre « je peux pas, je suis sous l'eau là ». Tant pis, on répondra de la sorte aux sollicitations.
« Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire
!» Les fans de hip-hop sont fous de joie. C'est qui va animer la mi-temps du Super Bowl cette année? Des rappeurs! Le hip-hop, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem, Snoop Doggy Dogg. J'entends déjà qu'il vaudrait mieux faire place aux jeunes. Oui, monsieur Dre, une réaction peut-être?
Comment ça, place aux jeunes? Non, mais ça va pas, non? Je suis électrifié, moi, mon vieux. Je décolle! Je pète les flammes!
Merci, Juliette. J'aurais pas choisi de meilleur sujet. Et une toute belle équipe nous accompagne aujourd'hui à 17h20. Celui qui choisit les disques comme je choisis les melons. Au marché, je fais semblant de m'y connaître. Et puis, je prends un peu au hasard. C'est Chewbacca, bonjour.
Bonjour, on va sauver les enfants aujourd'hui, c'est important.
C'est une mission.
C'est les Kids United.
Ouais.
Oh, ça fait plaisir.
À 17h30, l'homme qui dans moins de 100 jours va probablement s'installer à l'Elysée.
Oui,
mais il m'a promis que même en tant que président, il continuerait à faire des chroniques pour emmerder les Français.
C'est le même boulot, emmerder les Français à l'Elysée ou à France Inter. Je vais vous parler des sondages. Aujourd'hui, il y a partout des sondages. Et je suis allé donc sonder les gens dans la rue.
On obtient ce qu'on veut en posant les bonnes questions.
Et je suis bien placé pour vous le dire. Je fais ça tous les jours.
Et à 17h40, celle qui angoisse, Guillaume Musso, car elle vend beaucoup de livres en les écrivant correctement en plus, c'est Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi allez-vous nous parler?
Du livre de notre invité.
Mais oui, voici celui qui va être bloqué avec nous jusque 18h. Vous êtes...
Je suis...
Daniel Guichard.
Daniel Guichard. Oh oui, c'est Daniel Guichard.
France Inter. Juliette Arnaud, Alex Vizorek,
Par Jupiter.
Effectivement, Gringe était prévu à cette émission, et puis comme j'ai repris les choses en main et que mes goûts musicaux ne sont pas les mêmes que ceux de Charline, vous venez pour votre livre sorti en poche, La Tendresse, Daniel Guichard.
Oui, c'est ça.
30 ans de carrière, au moins. Non, Gringe est avec nous, évidemment.
Voilà, ben oui,
c'était comme une blague.
Mais il y avait un doute.
Et oui, bien sûr. Vous venez pour l'édition poche de votre livre « Ensemble, on aboie en silence », publié chez HarperCollins en 2020. Et Juliette Arnaud s'est plongée dans votre ouvrage.
Alors, ce livre qui s'appelle « Ensemble, on aboie en silence », ça n'est pas un premier roman, puisqu'il est bien précisé dès le début, récit composé à partir d'échanges avec Thibaut Tranchant. Composé par l'autre Tranchant, vous, Guillaume, ça va te plaire Maurice, c'est de la vraie vie. C'est le portrait de deux frères, ça commence par vos deux enfances, et vous vous donnez le moins bon rôle, je vous cite, « Il, Thibaut, est généreux, je pique des crises, il ne comprend pas la méchanceté, j'en fais un art de vivre. » Et puis le généreux a une maladie mentale, il est schizophrène, il entend des voix, il vit avec elle, ils le retiennent loin des autres, de vous aussi. Est-ce que écrire votre histoire à tous les deux, c'était pour raccourcir la distance qui s'était installée avec votre frangin?
Non, parce que j'ai jamais laissé la distance s'immiscer entre nous, lui non plus d'ailleurs. Mais je pense que c'était dans un souci, peut-être un besoin de réparation. Morale d'abord pour lui, parce qu'il a vécu une espèce d'injustice, une série d'injustices comme ça pendant 15 ans. Et puis parce que j'avais envie, c'était l'occasion qui m'était offerte de m'embarquer sur un projet avec mon frangin. Je trouvais déjà autour de sa schizophrénie, créer un bouquin qui serait une espèce de bouquin sur une schizophrénie fraternelle m'amusait beaucoup, mélanger nos voix. Et je trouvais ça valorisant pour lui, et je le sentais, voilà, si je le travaillais un peu au corps, je le sentais capable de s'embarquer avec moi, quoi.
Clara,
vous écrivez dans votre livre, donc Ensemble, on aboie en silence, cette phrase qui est assez terrible, qui est très belle et très terrible en même temps. Vous dites, je suis le grand frère que je ne souhaite à personne. Vous ne vous épargnez pas.
Vous n'avez pas eu un grand frère. Non, je m'épargne pas, mais je m'épargne pas parce qu'à un moment donné, quand un proche souffre de troubles, d'un trouble psychique, de quelque chose en plus qui est pas palpable, qui est pas face à une espèce de chose face à laquelle on se retrouve impuissant, c'est difficile en tant que proche, en tant que grand frère encore plus. On a 2 ans d'écart, il y a une espèce d'effet miroir terrible. Et je me pose la question, à quel moment j'ai manqué de vigilance en tant que grand frère. Bon, après ces culpabilités-là, elles sont. Moi, j'ai bossé sur la mienne et j'ai compris des choses. Mais ce bouquin m'aide aussi à me délester un petit peu de ça, quoi. Mais c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'on peut pas faire sans culpabilité.
Non, je ne crois pas qu'on puisse effectivement.
Il y a la championne d'Europe de culpabilité qui est là. Donc,
c'est un récit, mais c'est de la vraie littérature. Je tiens à l'affirmer. Vous avez un goût avéré pour l'écriture et c'est un passage réussi. Mais vous aviez la pression de Thibaut, vous le dites dès le départ. Thibaut qui vous prévient parce qu'il ne veut pas participer au départ et il vous dit la littérature, c'est sérieux. C'est ce que vous pensiez aussi?
Absolument pas. Absolument pas. Non, moi je non. Pour être honnête, j'ai vu l'opportunité de me faire un billet, moi, au début. Je savais les talents littéraires de mon frangin. Je savais son écriture, hyper prosaïque, cette espèce de fulgurance, et puis ses connexions à des choses qui m'échappent. Mon frère, quand il écrit, il est connecté. Il entend des voix, il est juste l'instrument, le réceptacle, ou le messager de ce qu'il entend, quoi. Donc il écrit des choses formidables qu'il a jamais fait lire à personne. Et je voulais me servir de ça. Bon, après je déconne à peine quand je dis que
vous avez partagé les droits
à se faire. Ouais, justement, je m'étais dit que c'était cool aussi qu'on se fasse un salaire tous les deux, qu'on se partage le gâteau à deux, quoi. Je trouvais ça chouette.
Mais c'est surtout comme c'est en édition de poche, ça y est.
Ouais.
Il y a un gâteau.
Ah ouais, il y a un gâteau déjà, ouais. Ouais, ouais. J'ai bien négo les non, j'ai été. Ce qui est cool, c'est que mon frère se foutait à la fois de recevoir des sous pour ça. Il était juste peut-être un peu trop pudique pour que je m'amuse à le décortiquer, mais voilà, en fait, je pense que je l'ai eu à l'usure, en le rassurant, un petit peu, en le comment dire, en lui expliquant que la portée d'un tel bouquin pouvait aussi avoir des effets. Être fédérateur, avoir des effets sur les autres.
Pas seulement pour vous deux, mais pour
bien
les
sûr.
Autres.
Ouais, qui a une dimension un peu plus universelle et tout. Et je pense que c'est ce message-là, je pense qu'il l'a charmé.
Le titre de votre bouquin, c'est Ensemble on aboie en silence. Alors intuitivement, on pense que c'est la devise de votre fratrie, à Thibaut et à vous. Et puis on découvre que c'est la devise de James et Thibaut, donc un chien et un homme. Et quand c'est le bordel, ensemble on aboie en silence. Mais en y réfléchissant, aboyer en silence, c'est un peu une très bonne définition de l'acte d'écrire, de la littérature.
Mm-hmm. Ouais, complètement. Ouais, les colères intérieures, espèce de douleur muette qu'on exorcise par l'écriture. Mais c'est ce que je fais moi, sans mon pote Aurel, c'est ce que j'avais commencé à faire sur mon album, Enfant Lune. Et là, effectivement, le sujet était tellement lourd que je le voulais pas lourd tout du long. Hein. Je voulais m'amuser à varier les tons, à laisser mon frère s'exprimer aussi au maximum. Casser les moments un peu pénibles à lire et à écrire, à décoffrer par des moments un peu plus légers, mais c'est un sujet lourd, ouais. Donc
et on va l'entendre en musique aussi, puisqu'on l'a.
Et j'en ai fait un morceau, ouais.
Dans la boîte, exactement. Ouais. Donc le livre Ensemble, on aboie en silence, et le morceau On aboie en silence, Gringe.
Une prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel. Foule feuille, une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber. Ce soir la nuit est belle. Gratter un tour gratuit, rester des sales mômes toute la vie. Juste une autre façon de la voir, parle pas de mauvaise éducation. Step backward sur nos parties de foot au City Stade la nuit. Tard le soir sur le parvis, on se repère au bruit du ballon. On défie le daron, l'ambiance est paramilitaire. Et puis on effrite le marron, ça sent la paraffine cet hiver. Et quand je me noie dans mes larmes, que je mords le fruit du démon, c'est encore toi mon frère qui me ramasse à la petite cuillère. On se fout de la mise en page, ensemble on vit dans la marge. Et si les fous nous taxent de faux, dis-moi au fond, qu'est-ce qu'ils en savent? Celui qui t'a mis en cage, je vais lui faire vivre un enfer. Je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel que t'abats en silence. Y'a ta tête qui frappe comme un tambour. Mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel, on abat en silence. On abat en silence. Les jeux d'enfants sous la pluie disparaissent en un tour de magie. T'as beau avoir de la barbe, tu restes mon petit frère pour laver. Et quand l'orage éclate et qu'on se retrouve à court d'abri, on aboie en silence dans nos voyages au bout de la nuit. Au bout de la nuit, j'écoute tes histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi, toi, t'as plus de vie qu'un chat. La plupart des gens l'ignorent, faut-il en payer le prix fort? Pour toi, j'irai briser la chaîne du froid en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel que t'abats en silence. Y'a ta tête qui frappe comme un tambour. Mes journées qui se changent en nuit blanche. Comment faire taire ce bruit qui ressort? Quand c'est le bordel on abat en silence. Prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel. Fous le feu à une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber, non, ce soir la nuit est belle. On s'évade entre hibernation mentale et vie réelle.
On aboie en silence, le titre oxymorique.
Oula.
De Gringe, qui n'est autre que le presque éponyme de son livre « Ensemble, on aboie en silence ». Vous êtes sur France Culture et nous sommes ravis de vous accueillir avec... On a une belle carte à jouer, même pour Culture, Juliette. Mais oui, on sait jamais, c'est sur Inter, il n'y a plus de place sur la grille. Tac, tac, boum, boum. Qui nous entoure ?
Rire et une chanson.
Moi, j'essaie de me positionner aussi, mon côté.
Nous avons une équipe de gens brillants, Alex. Nous avons Clara Dupont-Monod, nous avons Djoubaka et nous avons le moins brillant, évidemment. On a la médiocrité également, Guillaume.
Il faut toujours là, hein. Ça fait longtemps maintenant. Allez, évidemment, c'est aussi une émission d'information Gringe que vous allez le découvrir avec le journal de presque 17h17.
Le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Par contre, il les protège à 100% du confinement.
Le journal de presque 17h17.
Mais t'avais des vaccins?
Ah, je vais être obligé là.
Alors, connard, tu la sens la petite piqûre?
On commence par les titres.
Le pass vaccinal est entré en vigueur ce lundi. Pour les non-vaccinés, il n'est donc plus possible d'aller au restaurant, au cinéma ou encore de prendre le train ou l'avion.
Alors, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça de forcer les anti-vax à n'avoir qu'un seul loisir possible, rester chez eux pour regarder en boucle des vidéos complotistes sur Facebook.
Ce lundi, Emmanuel Macron s'est rendu dans la Creuse.
Et oui, il voulait se rendre dans un des coins les moins peuplés de France. Il a donc hésité entre la Creuse et un meeting d'Anne Hidalgo.
Et des brèves.
Et bien sûr, elle rassemble énormément d'aficionados. Ce seront les brèves.
On n'a pas les chiffres exacts, hein,
si,
quand même,
c'est
de
énorme.
Ce rassemblement d'aficionados.
C'est énorme et il y en a une très raffinée. Pour terminer, je préfère l'annonce.
Je m'en réjouis.
On commence par la gauche.
Oui, avec ce chiffre, la primaire populaire revendique 467 000 inscrits.
Et oui, un chiffre qui rassure énormément du côté d'Europe 1, car ça prouve qu'on peut réunir moins de 500 000 personnes et encore être qualifié de populaire.
François Hollande était en visite dans une classe de seconde de Saint-Denis et il a déclaré... Pour l'instant, je ne suis pas candidat.
Attendez, non, il y a une erreur.
Ah bon? Mais laquelle?
On est en 2022. Et ça, c'est une dépêche de.
Non. Alors, déjà, me parlez pas sur ce ton. Et puis, écoutez, Alex.
Bah, pour l'instant, je ne suis pas candidat. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai que. On pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Bah, je vais en tout cas prendre la parole bientôt.
Juliette, ça peut arriver de se tromper, mais je vous demanderai pour la prochaine fois de faire attention. Parce que d'ici peu, vous allez nous dire que à droite, la candidate se propose de balayer au Karcher.
Voilà. Et... voilà.
Voilà.
Et donc, c'est bien en 2022, et donc, il va bientôt prendre la parole.
Voilà. Et donc, son ennemi, c'était pas la finance, mais la gauche. Et je pense que cette fois, il va gagner le combat.
À l'extrême droite, Gilbert Collard quitte le RN pour rejoindre Éric Zemmour.
Et oui, en même temps, RN et Zemmour, c'est un peu bonnet blanc et blanc. C'est un peu chemise brune et brune chemise.
Alors, pas sûr, parce qu'il y a quelques années, Gilbert Collard avait été très clair.
Je ne m'associerai jamais avec des gens qui, de près ou de loin, exprimeraient de la xénophobie, du racisme ou de l'antisémitisme.
Ah, la maladie d'Alzheimer, cette coquine.
Nicolas Dupont-Aignan a déclaré que s'il était élu président, il aimerait nommer Jean-Pierre Pernaut comme ministre.
Oui, et 0800 23 13 13.
C'est quoi ce numéro, Alex?
On sait jamais. Si Dupont-Aignan nous écoute, ça peut servir. C'est le numéro des drogues infoservices.
International. Dans la crise avec la Russie, la France conseille à ses ressortissants de reporter les voyages non essentiels en Ukraine.
Oui, Jean-Michel Blanquer s'en fout. Pour les prochaines vacances, il avait prévu Acapulco. De toute façon.
Tennis. Gaël Monfils s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie.
Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'exploit. Un Français en deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem. Quand je vois ça, je me dis Poutou a une chance d'être au deuxième tour. Tout est possible.
Et des brèves, Alex.
Et des brèves. À Los Angeles, Arnold Schwarzenegger impliqué dans un accident digne d'un film d'action. L'acteur a en effet brûlé un feu rouge au volant de son SUV et a terminé sa course au-dessus d'une autre voiture. Ils sont forts les Américains parce que chez nous, il y a eu un accident cet été. Fabrice Luchini à vélo a renversé un piéton à l'île de Ré avant de remplir le contrat sur des extraits de Voyage au bout de la nuit. Mais c'était moins impressionnant.
Et la dernière, alors.
Ouais, je l'avais un peu vendu.
Peut-être on n'est pas obligé de la faire.
Celle qu'on appelle la raffinée.
La raffinée, un cadeau. États-Unis, pour résoudre ses problèmes d'érection, il s'injecte de la mousse isolante dans le pénis. Oui. Oui, bah à mon avis, ça doit isoler pas mal. Parce qu'après avoir fait ça, je pense qu'il doit se sentir bien seul, ce garçon.
Alors, je le dis au cas où il y aura des gens qui se disent tiens, la bonne idée, j'y ai pas pensé. Ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné.
Et voilà, ne faites pas ça chez vous, c'est réservé à des professionnels. Gringe, j'espère que ça vous a permis de vous remettre bien les idées en place. Parce que là, attention, Juliette, elle a choisi des sujets. Elle a bien bossé, elle a bien bossé. Et ce premier sujet, rappelez-nous lequel il est.
C'est honteux. La crise sanitaire a amplifié cette souffrance particulière qui est celle de la solitude. Alors intuitivement, on pouvait penser qu'après le confinement, cette souffrance aurait un peu reculé. Ben, les chiffres de la dernière étude IFOP disent le contraire. Les Français en souffrent plus et ils osent moins en parler. C'est si difficile d'exprimer ce genre d'angoisse.
Et toi, qu'est-ce que t'as fait ?
J'ai traîné, j'ai rien fait d'extraordinaire. Enfin, je... Tu sais, vendredi, en rentrant chez moi, je mourais d'envie d'un sandwich mayo œuf salade. Ça m'a pris la tête toute la soirée et je me suis dit, mon vieux, demain, tu te fais une folie, tu te lances. Alors je suis sorti samedi et j'ai acheté une douzaine d'œufs. Et je les ai tous fait cuire. Et ensuite, en fait, j'y ai passé, je sais pas, peut-être bien 3 heures. Non, qu'est-ce que je dis, 3 heures et demie? Bah oui, tu sais, entre la mayo, les oignons, enfin, puis le paprika aussi, et, enfin, tu vois, toute la panoplie. Et finalement, après avoir fait tout ça, j'en avais plus envie.
Ça, j'imagine.
De toute façon, j'avais plus de pain. Tu sais, un truc sympa, quoi. Un bon week-end.
Oui, on se sent toujours un peu seul quand on a 40 ans et qu'on est toujours puceau, c'est le titre, l'extrait du film qu'on vient d'entendre. On a entendu Steve Carell, enfin, des gens qui les doublent, bien sûr, et Seth Rogen. Votre livre est sorti en 2020. Au début de l'automne 2020, c'est une année qui a mis en lumière nos ultra-modernes solitudes. Quels échos de lectrices et de lecteurs vous avez eu en rapport avec cette période ? Est-ce que les gens, en plus, ont insisté sur la solitude dans laquelle, eux, ils étaient plongés ?
Alors, les gens qui sont concernés directement par des pathologies psychiques, ouais, complètement, évidemment, c'est doublement punitif, isolant, ce qui a été le cas de mon frère, qui me dit quand même qu'il vit une solitude, un isolement depuis X années, mais que, ouais, renforcé par les petites activités qu'il pouvait avoir à gauche, à droite, aller à la piscine avec la maman... plus il y avait plus ça quoi. Et les retours de lecteurs, moi j'ai eu la chance pendant cette période-là d'avoir des salons de sauver à gauche à droite, donc j'allais me faire quand même quelques déplacements et j'allais à la rencontre de gens. Je sais pas. Moi, j'aime ma solitude choisie, celle qu'on subit, elle est forcément, enfin, la privation des libertés individuelles et tout, c'est compliqué. Je l'ai pas vécu comme ça, moi. Les gens ont morflé, quoi.
En tant qu'artiste, justement, quel est votre rapport à la solitude? Parce qu'il y en a qui l'aiment, d'autres.
Moi, j'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin pour écrire, j'en ai besoin, j'ai besoin de calme, déjà, pour digérer l'information et, c'est pour ça, c'est l'exercice de l'interview, par exemple, c'est beaucoup d'infos que je dois filtrer très vite et digérer très vite.
Vous êtes impeccable, pour l'instant.
Ouais. Surtout l'interview de Juliette, c'est la plus dure. Elle est redoutée, Juliette. Dans le bar.
Mais c'est Juliette que je regardais dans les yeux.
Et voilà.
Et du coup, j'ai besoin de temps pour tout. Du coup, moi, une période de confinement pour écrire un bouquin, c'est parfait.
Mais c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure par rapport à Thibaut, par rapport à votre frère, tous les psys, on les a entendus assez rapidement, tous les responsables de la psychiatrie dire « attention, c'est très grave parce que les malades psychiatriques sont en train de souffrir la double peine, ils ont un enfermement qui est déjà celui de leur maladie mentale et en plus, vous êtes en train de faire n'importe quoi en les enfermant à l'intérieur. »
Ouais, complètement. Mais même des centres, je me rappelle que je sais que Thibaut avait... est suivi par deux psychiatres, je crois. Enfin, il y en avait un qui avait mis la clé sous la porte le temps du confinement, et que c'était des consultations en visio, que c'était compliqué pour mon frère de le faire. C'est beaucoup trop impersonnel pour l'impliquer dans une discussion thérapeutique, en tout cas. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, des activités autour. Après, j'ai du mal à me mettre à la place d'eux, parce que j'ai un rapport à la solitude et en tout cas à ma solitude si particulier. Je sais pas réellement ce que ça, la manière dont ça a pu impacter. J'ai vu des potes à moi péter des plombs. J'ai vu des potes à moi morfler aussi financièrement et sur le plan professionnel, quoi. Moi, j'ai eu la chance qu'on me propose ce bouquin juste avant l'annonce du premier confinement. Donc, j'ai passé le premier confinement chez moi. J'ai passé 4 mois, 4 mois à écrire, quoi, quotidiennement. Donc, je ne l'ai pas subi.
Vous êtes le patient zéro, quoi. Ça.
Je suis un peu le patient zéro.
Bien joué.
bien joué. Il a bon dos, le pangolin. Lui, il aime la solitude. Voilà,
j'arrive derrière ça.
Dans son bureau où il écoute beaucoup de disques seuls.
Ah, c'est bien le pangolin. Bon alors, aujourd'hui, c'est un peu la rubrique choses vues et entendues. Donc samedi dernier, vers midi en passant, je suis devant un conservatoire parisien et j'assiste avec pas mal de monde à une embrouille entre un prof de musique et une mère au comble du désespoir. À côté des adultes, il y a une enfant triste, hein, comme la pluie, qui tenait un étui à violon. Alors nous comprenons, au milieu des cris, que la gamine, au contraire de ce que pensait sa mère, n'était pas dans le top des musiciennes de l'année. Donc ça continue à gueuler, et la mère demande à sa fille de nous faire une démonstration, je vous assure que c'est vrai, de ses talents, comme ça, dans la rue, histoire qu'on se rende compte de son génie. Alors, disons-le tout de suite, être génial n'est pas vital. Et même des fois, on peut s'en passer, c'est pas grave. Alors, peut-être qu'elle s'en tape même du violon, en fait, la petite, quoi. Bon, alors, ce besoin parental m'en a rappelé un autre, et pour le coup est rentré dans l'histoire du rock. Bon, là, c'est un père qui va pousser le bouchon un peu loin. Pendant l'enfance de ce monsieur, qui s'appelle Austin Wiggin, on lui prédit, en regardant les lignes de la main, que sa future femme aura les cheveux blonds, qu'il aurait deux fils et trois filles. Alors, comme il s'est marié avec une femme avec des cheveux blonds et qu'il a eu deux fils, trois filles, et que ces trois filles aussi pourraient devenir stars de la chanson, il s'est dit que c'était bon, quoi. Il fallait au moins réaliser la dernière prédiction. Donc, un jour, il entend ses bambines accompagner avec ferveur les chansons qui passaient à la radio, et il leur dit « Mes cocottes, c'est parti, toi tu joueras de la guitare, toi de la basse, toi de la batterie, et vous chanterez à tour de rôle. » Donc, il confia à la plus grande le soin d'écrire 12 chansons, des trucs simples que tout le monde comprend, il les retire de l'école, il les fait jouer tous les jours, mais leur demande un peu de gym, histoire d'être en forme pour le grand moment quand le passeront à la télé. Elles ne jouent que pendant quelques mois, mais Austin Wiggin, le père, décide de les envoyer enregistrer dans un studio, à vrai, où on ressort avec un disque à la clé, donc 12 chansons sont mises en boîte. L'album a pour titre, tenez-vous bien, Philosophy of the World, je traduis pas. On presse là, selon la légende, 1000 exemplaires du disque, et on entendit ceci. Donc,
Ça me choque pas.
Ce disque est envoyé à la presse, aux DJ des radios locales, et la réponse est sanglante.
Non.
Personne n'en veut.
Quelle surprise.
Donc, on se méfie même du nom du groupe, hein, qui fait référence à une coupe de poils pour chien qui donne un air hirsute à la jante canine. Elle s'appelle The Shags. Voilà. Et comme nous sommes en pleine période hippie en 69, certains croient quand même à une bonne blague d'activiste chevelu. Eh bien non. Il y a un moment où il faut laisser les mômes tranquilles. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors vous me direz, ce disque aurait pu tomber aux oubliettes, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'en souvient encore aujourd'hui? Eh ben parce que Frank Zappa, il trouve ça génial. Kurt Cobain aussi, ils l'ont pas dit au même moment, c'est pareil. Et il trouve qu'il y a une sorte de fraîcheur, que c'est un petit trésor, voire même, on est dans l'art singulier, l'art brut ou outsider. Et depuis 40 ans, les hommages aux Shags se multiplient dans le monde du rock. Les trois sœurs, en tout cas, elles ont sévèrement morflé. Le père leur avait même organisé une sorte de mini-tournée où elles se faisaient huer et se prenaient des tas de projectiles sur la tronche. Donc le daron disait, texto, si les Beatles sont réussis, mes filles peuvent le faire. Il y a un biopic qui se prépare dans tous les studios d'Hollywood, on a parlé d'elle, au théâtre, mais on ne leur a jamais demandé leur avis. Et quand leur père a passé l'arme à gauche, bah, ils ont vendu tout leur matos et sont allés voir ailleurs, quoi. Donc je pense à cette pauvre gamine au violon, ma grande, vas-y, fais ce que tu veux dans la vie, et on médite sévèrement au moins une minute, hein, c'est un dernier fort, mais ça va aller, au son des Shags. My pal, foot. Ça, c'est l'intro. C'est toujours l'intro.
Pas mal.
Alex est en France.
C'est joli, hein.
Guitare.
Ça, c'est la guitare, ça.
Oui, qui arrive. On va jusqu'au début du chant.
C'est un chant.
Des fois, il faut se séparer de ses parents quand
même. Est-ce moyen si on fait de belles boucles?
Pas sûr.
He always likes to roam. My pal's name is Footfoot. I never find him home.
Donc, Alex Vizorek attend votre disque pour le cadeau de Noël. Il le prendra.
Est-ce qu'on peut écouter de la vraie musique?
Non.
S'il vous plaît. Et c'est moi qui le dis. Aurel San. Jour meilleur.
«
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais.
Orelsan, jour meilleur, et nous sommes avec son complice Gringe, dont le livre ressort en poche. Ensemble, on aboie en silence, qui a été, qui sera conseillé d'ailleurs par vous de Juliette et Clara, les deux chroniqueuses littéraires. Vous faites l'unanimité. Et Clara nous en parlera tout à l'heure, mais avant ça, on est un petit peu obligé.
Oui, c'est contractuel. C'est comme ça. Désolé.
Ça, c'est, je ne sais pas. C'est quota de gauche.
Mais rappelez-vous que être génial, c'est pas vital. Comme on dit. Je vais vous parler sondage aujourd'hui parce qu'ils sont très intéressants les sondages en ce moment, il y en a partout. Par exemple, 87% des Français pensent que Alex Vizorek n'est pas assez présent dans les médias. C'est un sondage réalisé dans la famille d'Alex Vizorek, ainsi que chez les personnes aveugles, sourdes et habitant au cœur de la forêt amazonienne. Alors c'est aussi intéressant.
Même dans ma famille, ils trouvent que je suis trop.
Oui, c'est, ah, oui, c'est vrai. C'est peut-être un signal, mais ce n'est pas le sujet de ma chronique. C'est intéressant aussi au niveau de la présidentielle, les sondages. Anne Hidalgo a été mesurée aujourd'hui à moins 4%. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oui, il y a des gens qui pensent dévoter pour elle. Et finalement, ils enlèvent le bulletin. D'ailleurs, au début, j'ai cru qu'elle était à 40% dans les sondages. Je me suis dit, tiens, ils ont fait un sondage à la maison de la radio. Mais en fait, non. Non, non, 40, c'était le nombre de spectateurs à son meeting dans une salle de 1500 places. C'est compliqué. Ça nous rappelle évidemment les heures les plus sombres du One Man Show d'Arthur. Ces sondages, le problème, c'est que c'est les instituts qui choisissent qui est sondé ou non. Ça, c'est un problème. Par exemple, le parti animaliste n'est quasiment jamais testé, alors que ce sont les seuls qui mettent des animaux sur leurs affiches. Les autres mettent des grosses buses, mais en costard. Je rappelle que ça ne compte pas. Donc, les sondages posent plein de questions. C'est même le principe du sondage. Je suis donc allé dans les rues ce matin sonder les gens sur les sondages. Et un monsieur qui venait de lire que...
Les sondages étaient faussés par définition, puisqu'ils étaient constitués que par les réponses de personnes répondant au sondage.
Ah oui,
voilà.
Est-ce que vous répondez au sondage? Est-ce que vous répondez aux gens qui vous posent des questions dans la rue pour la radio?
Non, jamais.
Voilà, ça c'est important d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir. Moi c'est pareil, je prendrai pas l'argent du contribuable pour aller le faire chier dans la rue un lundi matin. Je ne ferai jamais ça. Non, non, ce qui m'intéresse, c'est si cet autre monsieur est influencé par les sondages.
Non, je regarde des fois comme tout le monde, mais... Ça m'intéresse pas du tout.
Ça vous influence pas du tout, jamais ?
Pas du tout.
Donc le vote utile, tout ça, ça existe pas ?
Ça, on peut pas savoir. Hein.
Ah, voilà.
Ça dépend... c'est toujours pareil. C'est un peu compliqué. Là,
c'est compliqué.
Ah, mais dis donc, t'as les cheveux gris.
Oui.
Bah, t'es pourtant jeune, putain.
Alors, attendez, oh là là, attendez. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une manière de ne pas répondre à ma question, hein, d'ailleurs. Ça, c'est l'école Jean Castex. Dis donc, Jean, quand est-ce qu'on ferme les écoles?
Oh, j'ai perdu mes lunettes, je ne sais pas.
Je suis pas sûr de l'imitation, je tente des trucs. Donc, on se calme. Oui, j'ai les cheveux blancs. Oui, voilà. Je suis plus tout jeune. J'ai connu une époque où France Inter était de gauche. Vous vous rappelez, aujourd'hui, bon, elle fait des vidéos girly tendance avec Marine Le Pen. Voilà, France Inter, voilà, change, les temps changent. Dommage que Pinochet soit pas candidat. J'aurais bien aimé connaître sa couleur de papier peint préférée. Bref, en tout cas, cet autre citoyen refuse de donner son avis, y compris sur les sondages.
Non, non, on va pas parler avec des... C'est pas la peine, quoi.
Non.
Hein, ouais. C'est comme Pascal Pau qui s'obstine à faire venir Geoffrin, là, c'est pour s'engueuler. Bah, c'est, je trouve que c'est un peu con. Enfin, on se dit, on peut pas discuter avec des cons pareils, quoi.
Vous devrez inviter que des gens de droite, alors.
Oui.
Ouais, ça arrive, ouais, comme ça, c'est vrai plus vite. C'est vrai que niveau échantillon, Pascal, il est pas mal. Hein. Il invite Robert Ménard et Geoffrin. Il se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai toute la France, là. J'aborde toutes les sensibilités. Il croit que Geoffrin, c'est un zadiste, en fait, depuis le début. Donc, c'est compliqué. Mais nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est les sondages. Donc, continuons sur le chemin des sondages en se demandant, est-ce que ça serait pas, quand même, finalement, de la merde?
Dans l'ensemble, je pense que oui.
Est-ce que là, je vous ai pas influencé en posant une question?
Non, vous m'avez pas influencé, parce que ce que je pense n'a aucun impact sur quoi que ce soit, donc c'est pas gênant.
Ah ben si, si ça se trouve, il y a des gens qui vont vous écouter et qui vont trouver intéressant ce que vous dites.
C'est ça. C'est bien le problème.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est le problème. Mais oui, c'est le problème. C'est que chacun influence chacun. Donc c'est difficile de quantifier l'impact. Pourtant, bon, si on sait quand même que Djoubaka influence des générations et des générations de musiciens, l'action Jack Daniels prend 15 points à la Bourse de Paris à chaque fois qu'il fait une chronique. Jean-Michel Blanquer, à chaque fois qu'il fait un truc, il fait monter la consommation de Valium dans les salles des profs. Donc on arrive à quantifier, mais globalement, c'est compliqué. Y compris dans les sondages, c'est compliqué de quantifier, même si certains s'en défendent. Hein.
Non. Non, pas du tout.
Ah ben non, moi je peux dire que ça m'influence pas du tout.
Est-ce que vous pensez que ça peut influencer des gens?
Oui.
Ouais.
Ouais.
Si Philippe Poutou était à 35% dans les sondages, est-ce que ça changerait votre vote ou pas du tout?
Ah oui, quand même.
Ah ben voyez alors, peut-être vous seriez influencé par les sondages alors.
Ouais.
Temple bourgeois. Alors, si Poutou est à 35%, c'est l'action Pampers qui va prendre des points à la Bourse de Paris. Il y a pas mal de milliardaires qui vont se faire dessus. Donc, on peut résumer en disant qu'on n'a pas l'impression d'être influencé tant qu'on n'est pas concerné. Voilà. Et à gauche, on est souvent concerné par les sondages pour savoir pour qui voter. On va finir là-dessus. Je vous rappelle qu'il se passe pas une journée sans qu'un hamoniste soit agressé par un mélenchoniste en mode « Ah bah super! Ah bah merci, hein! Fasciste !» Donc, réfléchissez bien, n'est-ce pas, madame?
En tous les cas, moi, je regrette en 2002 de ne pas avoir fait un certain vote. Hein. Ouais, ça, j'ai vraiment regretté.
Vous auriez dû voter Jasper en 2002?
Oui, j'aurais souhaité.
Alors, vous auriez dû suivre les sondages, peut-être?
Oui, bah oui.
oui, voilà, c'est ça, on en est là. Donc, peut-être qu'on pourrait tout simplement les interdire, les sondages à l'approche des élections, parce qu'on s'aperçoit que plus on sonde, plus on touche le fond. Et sachez que cette chute de chronique a satisfait 98% du club des fans de Guillaume Meurice et de ses petites morales de fin à la con.
Merci, Guillaume Meurice. Et je vous prends la parole, et là, hop, t'es un meneur de jeu. Oui. Je me retourne, Zizou, je passe sur ma gauche à Juliette Tardot.
Et je la trope parce que je suis Messi, donc.
Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Je ne vais pas vous mentir.
Ok. Oui. Bon.
Arrêtons cette métaphore footballistique.
On la stoppe. Comme la nature, le capitalisme a horreur du vide. Vous renaclez après une journée de travail et allez faire vos courses de bouffe. Les enseignes se rabattent sur le net pour vous livrer à domicile. Sauf que, attention, l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Et le vice, c'est mal, hein, Alex. Et si le business de la flemme revenait carrément démanteler le fait même de faire société, tout simplement, avec des slogans publicitaires super alléchants, bien sûr.
Sois feignant, sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, sois feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, baise et collectionne les véroles. La médecine fait quelques progrès. Tandis qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, où déjà se sont entassés ceux qu'on crut dans la société. Sois payant, sois payant, tu vivras content. Sois payant, sois payant, tu vivras longtemps.
Est-ce que, Gringe, vous reconnaissez cette personne ?
C'est Coluche.
Tout à fait, en 78. Conseil à un nourrisson. Alors, sur un article du Figaro qui est intitulé « Le business de la flemme », donc les courses à domicile pour les gens qui ont la flemme, on a eu l'impression qu'on parlait avec un spécialiste, avec vous, parce qu'entre bloquer le film « Commencez loin », votre désir très tardif d'être au centre, donc de cavaler après la réussite, le premier album à 38 ans, est-ce que vous voyez comme ça, comme un spécialiste de la flemme ?
De l'ubérisation depuis petit. C'est moi qui ai dit. À fond. On a fait un mode de vie. On a cultivé ça tellement longtemps qu'on en a fait des albums, des tournées. Mais c'est pas une posture, quoi. C'est espèce de flemme qui n'en sont pas. C'est dans ces moments-là, finalement, quand je mate par la fenêtre, par exemple. Ce que ma meuf ne comprend pas tout le temps. Mais c'est.
Il y a un psy dans l'article qui dit que l'oisiveté est parfaitement délétère pour le moral.
Ça peut, ouais, elle peut l'être. Mais on parle de vraies déconnexions, là.
Maintenant que vous avez un âge de daron, si vous deviez parler à quelqu'un de 18 ans qui glande, vous lui diriez continue à glander ou...
Ouais, complètement. Ouais. Ouais, je lui dirais d'en faire en club le mercredi après-midi, avant d'en faire rien. Ouais, vraiment. Non, mais je pense que c'est dans ces moments-là, en tout cas, que les choses décantent. En tout cas, je l'observe pas que chez moi, chez des artistes aussi, des gens qui écrivent, des gens qui font de la musique. C'est dans ces moments-là que on se remplit finalement.
Qu'on s'aime,
qu'on se reconnecte peut-être aux essentiels. En faisant le vide, quoi. C'est vrai, c'est en faisant le vide, on peut se remplir. C'est important.
Et ça peut donner un livre.
Ça peut donner un livre dont
on va parler, Clara Dupont-Moulou.
Oui, parce que Gringe, vous avez écrit un très beau livre sur le refus. Donc je rappelle le titre, hein, Ensemble, on aboie en silence. Alors d'abord, votre livre, il s'ouvre sur le refus de faire un livre. C'est quand même ça l'histoire. Ouais. Il y a l'éditeur qui vous dit, écrivez l'histoire de votre frère et vous. Et la réaction de votre frère, je cite... Ouais, mais non. Voilà. Votre frère.
Je vous avais dit qu'il avait une plume.
Ah ben. Mais surtout, il a une plume, oui, mais il a surtout une beauté contestataire. Alors, il est malade, il souffre de schizophrénie, et cette maladie l'amène à refuser, être à rebours de tout ce qu'on attend de lui. Déjà, alors qu'il est lycéen, Thibaut, c'est son prénom, refuse l'école, qui par ailleurs le lui rend bien, hein, puisqu'on sait à quel point l'école est à l'aise avec les enfants hors cadre. Et puis d'ailleurs, vos parents doivent finalement le déscolariser complètement, tellement il rentre malheureux d'une journée de cours. Et puis, par la suite, Thibaut fait des choses qu'on nous a toujours appris à ne pas faire. Par exemple, il s'équipe le soir pour aller marcher toute la nuit. Or, nous, on nous a toujours dit, la nuit, on dort. Thibaut, il marche. Il a sa musique dans les oreilles, il avance au hasard, et ça, il le fait dans n'importe quel pays. Ah oui, parce qu'il y a autre chose aussi qu'il fait, c'est qu'il part. Comme ça, dans n'importe quel pays, avec pas grand-chose de planifié. Il vit dans un éternel présent, ce sont vos mots, ce qui est une forme de révolte, en réalité, une forme de refus du cours standard de la vie, où on est toujours obligé de prévoir, d'organiser, de construire. Alors lui, il construira pas de famille, par exemple, il en fait pas une affaire d'État, et d'ailleurs, il y a une scène qui est très drôle, je pense que c'est ma préférée, c'est qu'un matin, vous passez voir votre mère, et dans la cuisine, vous tombez sur une femme de son âge, en pyjama. Aux surprises, c'est l'amoureuse de Thibaut, petit temps d'arrêt quand même, et vous dites, ma mère, sidérée et en hyperventilation, en l'espace de 6 mois, a troqué un mari en crise pour une belle fille cumulant à peine plus de trimestres qu'elle. Cœur sur votre mère, parce que c'est pas hyper évident. Mais vous voyez, même amoureusement parlant, Thibaut est à rebours des jeunes de son âge, il préfère en fait les femmes beaucoup plus mûre. Oui, alors je sais, Vizorek, mais Thibaut est jeune, contrairement à vous.
Voilà. J'avais déjà ce petit souci.
Exactement. Alors, cela dit, Thibaut, il s'inscrit dans une grande tradition, parce que l'histoire littéraire, elle est jalonnée de refus. Souvent, les plus grands romans, ils mettent en scène un non merci. Un des plus célèbres, c'est La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. Elle se refuse à l'homme qu'elle aime, alors qu'elle est dispo. Mais ce non merci de la princesse, il s'apparente à un renoncement. C'est-à-dire qu'elle renonce à prendre le risque d'aimer. Elle a trop peur qu'un jour, la passion ne s'éteigne. pas de renoncement chez Thibault. Il n'y a pas de volonté héroïque. Il est juste, en fait, équipé d'une distance qui va beaucoup lui servir, notamment avec les autres, ces terribles autres bien portants qui ont des réactions assez déplacées envers un schizophrène. Eh ben, Thibault, il refuse de s'abaisser au niveau de leur bêtise. C'est-à-dire que face au jugement arbitraire, au regard fuyant, à toutes ces absences de tact, qu'est-ce qu'il fait ? Il bat en retraite, il s'isole. En fait, il préserve son énergie pour lutter contre la maladie. Alors que vous, le grand frère, vous enragez. Vous dites « La moquerie des autres me colle des pulsions meurtrières ». Et c'est auprès de lui que vous allez apprendre ce pas en arrière du monde, ce refus silencieux qui sauve. Et c'est Thibault qui va vous enseigner comment ménager vos forces et ne pas se laisser consumer par la bêtise des autres. Et ce faisant, il est encore dans le refus, il renverse les rôles, il refuse les lois de la fratrie, il les retourne puisque de ce côté-là, il devient l'aîné, alors qu'il est le cadet, sanguinement parlant. Et au Maroc, d'ailleurs, vous finissez en pleurs contre lui, et c'est Thibault qui vous console et qui vous pose et qui vous dit « tu bouges pas, je reviens dans 2 jours ». À ce moment-là, il est l'aîné. Et donc, il prouve donc que ce qu'on appelle une défaillance, en vérité, est un véritable enrichissement, et aussi qu'un refus, ça ouvre autant de portes qu'un « oui ». Je vous redonne les références. « Ensemble, on aboie en silence » de Gringe est paru chez HarperCollins en poche.
Merci Clara Dupont-Monod. Une réaction, Gringe ?
Je trouve ça très joli, très beau. Pas dire grand-chose derrière tout ça. Je trouve ça vraiment très beau. Merci beaucoup.
Toujours difficile de parler après du Clara Dupont-Monod.
Ouais.
En plus, elle n'a pas lu le livre, c'est ça la
performance. Julien Tardot, dernier sujet, ça parle hip-hop.
Snoop Doggy Dogg le promet, le 13 février prochain, à la mi-temps du Super Bowl, 2 points, je le cite, « On va vous donner la plus grande performance que vous ayez jamais vue dans l'histoire du hip-hop. » Et vu l'affiche, comment ne pas y croire ? Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, toute personne aimant un tant soit peu cette musique trépigne et se réjouit. Bon, après, il y a les autres.
Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ton histoire de tu prune, là ?
Moi, de toute façon, je voulais faire du hip-hop cette année. Mais avec vous...
Du quoi ?
Du hip-hop. Ça se danse sur du rap.
Sur du rap ? Enfin, ça existe, ça ? Mais genre, là, tu déraisonnes ou quoi ? Du rap. Mais vous voyez pas des cours de verlan ou des stages de graffiti pendant qu'on y est ? Le rap, mais c'est même pas de la musique, ma chérie.
On laisse tomber, papa.
Bah, je suis désolé, ma chérie, mais je te préfère largement en tutu violine sur du Chopin.
C'était un extrait de Fais pas ci, fais pas ça, et on a entendu Guillaume de Tonquédec et Canel Carré Cassaigne. Alors, le vrai débat, c'est est-ce que ce Super Bowl qui s'annonce, enfin, cette mi-temps du Super Bowl, est-ce que, comme Sonia Duvillers l'a dit en tweetant, est-ce que c'est les Avengers du rap qui se retrouvent ou est-ce que c'est une tournée Star 80 comme l'a dit son rédacteur en chef?
Ah, c'est moi qui dois trancher.
Ah, c'est vous qui devez trancher.
Moi, je pense que nous, on n'y connaît rien.
Ouais, j'y connais pas plus grand-chose en vérité. J'écoute pas tant que ça. Moi, je serais plus sur une croisière à ch'tendre un peu là, ouais, un revival des
Expand
Label. C'est Mary J. Blige, c'est une grande dame du R&B.
Ah oui,
américain.
Voilà, c'est
mais
ça.
Mais c'est quand même le retour des anciens, Dre, Eminem. Oui, oui. Ils n'ont pas de toute première fraîcheur. Il y a des artistes
dites,
aujourd'hui.
C'est ce qu'ils vous disent, les vieux pauvres.
C'est, non, ça mérite le respect. Ils ont une carrière qui mérite le respect.
Voilà.
Excusez-moi. Mais non, c'est quand même.
Vous allez jeter un œil quand même, par curiosité.
Absolument pas. Non.
Mais c'était pas du tout le rap de votre jeunesse. À aucun moment, ces gens-là.
Eminem. Et même Kendrick aujourd'hui. Aujourd'hui, à la limite, c'est la. Oui, c'est une des figures de proue de la nouvelle génération du rap et il sait tout faire. Il est très très bon, mais c'est pas forcément un artiste qui me captive plus que ça, quoi.
Et au niveau de ce que c'est culturellement, que pendant le spectacle, ouais, l'événement le plus populaire des États-Unis, enfin
même,
le rap soit devant.
C'est longtemps culturel. Ça fait longtemps culturellement parlant que le rap fait partie de. Qui est hyper populaire
aux
États-Unis.
Mais c'est la première fois à la mi-temps du Super Bowl. Ou c'est exclusivement du
rap.
Exclusivement du rap. Oui,
okay.
Oui.
Non, mais c'est qu'il se passe quelque chose. Mais on peut l'observer aussi en France, et que le rap devient une musique majoritaire, hyper mainstream, hyper martelée en radio, et qui génère énormément de d'oseille, quoi. Voilà.
Écoutez, peut-être à la mi-temps de Sochaux-Reims.
On croise nous,
les concerts de Passy, par exemple.
Ou nous, on peut faire un petit duo avec une guitare-voix.
Vous, je vais vous proposer le sketch de fin d'émission. Oui, Guillaume, Gringe, peut-être vous connaissez cette tradition. On vous propose un sketch de fin d'émission, on vous donne un rôle. Okay. Vous allez être plutôt content parce que vous êtes Éric Zemmour. Et alors Juliette Ardon est très contente parce qu'elle est Marine Le Pen.
Je suis ravie.
Et ils sont bloqués. Et ils sont bloqués, donc un peu sur le concept de bloqué, arrivera Philippe Lemiteau, Guillaume Meurice, on se lance.
Tu ferais quoi, toi, si t'étais président ?
Si je devenais président, ma première action, moi, ce serait de virer tous les étrangers.
Pareil.
Ah, je réserverais tous les logements français, d'ailleurs.
Pas mieux.
Et puis, fini le voile dans la rue. Hein.
J'allais le dire.
Ouais. Sauf que toi, ça fait 20 ans que tu dis ça et personne t'écoute.
Pas faux.
Alors que moi, je suis un vent de fraîcheur sur le racisme.
Ouais, c'est injuste. J'étais raciste bien avant toi. Et maintenant, même les Arabes, ils me trouvent presque sympa.
T'es trop consensuel. Non, non, les étrangers, il faut les stigmatiser et leur faire peur. Faut montrer les muscles.
J'en ai plus que toi. Au bras de fer, je te plie en 10 secondes.
Ouais, mais moi, j'ai plein de nouveaux potes.
Tu parles des potes que tu me piques ?
Bah ouais.
Ouais, t'es relou, hein. Le pire, c'est que tu m'as laissé Philippe Chevalier.
C'est parce que moi, comme comique, j'ai déjà le bouffon du Puy du Fou.
On parle de moi ?
Ah, tiens, Villiers le mytho.
Non, pas du tout. Moi, je suis cohérent. J'ai fait un calcul très simple que j'avais créé pour la NASA à base de sondages électoraux. L'autre jour, je l'ai expliqué à Cédric Villani. Il a rien pigé, le gars. D'après mes prédictions, le grand remplacement politique, il arrive. Et le candidat que je soutiens, il va être président, tu vois.
Genre, toi, tu sais qui va gagner la présidentielle.
Ouais, ouais, c'est ça, mais faut pas le dire. Les Américains, ils veulent nous piquer notre technologie pour savoir s'ils vont récupérer Donald en 2024. Donald Trump, on se connaît bien avec Donald. C'est moi qui lui dis d'arrêter de délirer sur son mur, là.
Et donc, je vais gagner.
D'après mon pote qui bosse beaucoup et qui regarde aussi pas mal ses news, t'es le gars sûr, mon Rico.
Et moi, je vais faire quoi comme score ?
Ah, toi, c'est chaud. Toi, c'est chaud. Il m'a dit que t'allais faire une alliance avec Hidalgo et Nathalie Arthaud. Après, bon, c'est vrai que mon pote, il picole pas mal. Donc, des fois, il part un peu en couille. Moi, je l'ai connu du temps où j'étais champion de France de bodybuilding.
T'as fait du bodybuilding ?
Ouais.
Qu'est-ce
que c'est ? Vous voulez que je le raconte ?
Ouais.
Non. Bah,
c'est con parce que c'est quand même une super histoire, non ?
Donc, vous pouvez m'appeler monsieur le président. Je vais vraiment dresser la France.
Ouais, enfin, avec mes idées.
Tout de suite, les accusations de plagiat.
T'es un peu le Gad Elmaleh de l'extrême droite.
Je connais bien, moi, Gad Elmaleh, je vous raconte ça.
Non. Moi, j'ai déjà un comique, hein, chez Philippe Chevalier.
Et moi aussi, j'ai un comique. Il n'est pas loin de nous, d'ailleurs.
Ah, c'est Gilbert Collard.
Ouais, ouais, c'est ça.
J'avais quand même dit, Gringe, je suis un vent de fraîcheur sur l'extrême droite. Et si quelqu'un veut sampler, évidemment, et faire un très bon son, c'est cadeau. C'est cadeau. Merci beaucoup, Gringe. Voilà, là, on vous a obligé. Hein. Je tiens à le dire. Parce que ce que vous avez écrit, vous, a été cautionné par Clara Dupont-Mono, par Juliette Arnaud. Ensemble, on aboie en silence, publié en poche et chez HarperCollins. Si vous préférez lire des livres en plus grand. Voilà, on le trouve toujours. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a bien aidé à prendre en main cette émission très compliquée hein, quand on ne la maîtrise pas comme je la maîtrise, comme Charline la maîtrise. Ah, et on l'embrasse évidemment, Charline. On se retrouve demain avec la comédienne Valérie Mérès pour le film d'animation Les voisins de mes voisins sont mes voisins.
Je déteste entendre les voisins baiser, ça me dégoûte.